VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Claire Morin-Gibourg avec vous, en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui. Au sommaire ce soir, au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a été investi pour un second mandat. En RDC, le parti de Jean-Pierre Bemba appelle la CPI à mettre fin à la confusion autour de l'arrêt pour subordination de témoins, cause de l'invalidation de sa candidature à la présidentielle. Un lycée a été attaqué au Cameroun par des hommes armés. 5 élèves sont portés disparus. Aux États-Unis, c'est aujourd'hui le début de l'audition de Brett Kavanaugh devant le Sénat pour la confirmation de sa nomination à la Cour suprême. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, au Mali, le nouveau président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a prêté serment au cours d'une audience solennelle de la Cour suprême. Ibeka a été réélu avec 67,16% des voix lors du deuxième tour de l'élection présidentielle le 12 août dernier. De Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, veuillez venir devant le...
C'est à la suite de la lecture de l'arrêt de la Cour constitutionnelle proclamant Ibeka comme président de la République et le réquisitoire du procureur de la Cour suprême que Noum Tapili, président de la Cour suprême, appelle Ibeka à prêter serment. Ibrahim Boubacar Keïta, président réélu.
Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la constitution et la loi.
Noum Tapili renvoie par la suite Ibeka dans l'exercice de ses fonctions en ces termes.
La Cour déclare M. Ibrahim Boubacar Keïta officiellement installé dans les fonctions de président de la République du Mali.
Après sa décoration, Ibeka a fait un discours à la nation appelant les Maliens à l'union.
Je vous appelle tous en ce moment solennel à nous regarder les uns les autres comme les frères et sœurs que nous sommes, à s'attacher à notre but commun, un Mali où chaque génération a accompli le devoir sacré donné à la génération suivante les ailes et l'élan de ses propres défis.
Les festivités de cette investiture se sont poursuivies au niveau du monument de l'indépendance où Ibeka a déposé une gerbe de fleurs. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, l'opposition a appelé à une journée de manifestation le 29 septembre pour protester contre la gestion du pouvoir de Roch Marc-Christian Kabore. La politique du chef de l'État est jugée chaotique par les opposants burkinabés depuis son accession au pouvoir en novembre 2015. Cette manifestation nationale est la première du genre. Depuis son arrivée au pouvoir, le régime du président Kabore fait l'objet de vives critiques, y compris dans son propre camp. La polémique enfle au Bénin au lendemain du vote par le Parlement du nouveau code électoral qui impose notamment une caution de 250 millions de francs CFA aux candidats potentiels de l'élection présidentielle. Elle était jusqu'à présent de 15 millions de francs CFA. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition. La police sénégalaise a empêché un rassemblement de l'opposition à Dakar en utilisant des gaz lacrymogènes. Plusieurs manifestants ont été arrêtés. Le rassemblement de la coalition de l'opposition FRN devant le ministère de l'Intérieur avait été interdit par le préfet. Le Tchad a été invité par l'Union européenne à joindre la majorité des États de l'Union africaine qui ont aboli la peine de mort. N'Djamena a condamné fin août 4 personnes à la peine capitale. Au Cameroun, après l'attaque hier du lycée de Bafou en région anglophone, 5 élèves sont toujours portés disparus. 2 élèves et le proviseur gravement blessés ont été relâchés. Dans les 2 régions anglophones du Cameroun, un boycott des écoles a été décrété par des séparatistes qui sont en conflit violent avec l'armée. Le parti du président rwandais Paul Kagame et ceux de ses alliés devraient une nouvelle fois rafler une écrasante majorité des sièges lors des élections législatives de lundi. Plus de détails avec Pagasigoura.
Après dépouillement de 70% des bulletins, la coalition menée par le FPR, le Front patriotique rwandais de Paul Kagame, obtient 75% des suffrages, Deux autres partis soutenant la politique du gouvernement obtiennent respectivement 8,5% et 7% des voix. Le seul parti d'opposition autorisé à participer, le Parti démocratique vert, n'obtient que 4,5% des voix, soit moins que le minimum de 5% requis pour obtenir au moins un siège à la Chambre basse. Les résultats provisoires sont attendus dans la soirée. Les résultats définitifs, eux, doivent être publiés le 16 septembre. Près de 7 millions de Rwandais ont voté pour ces législatives. 53 sièges étaient en jeu sur les 80 députés de l'Assemblée nationale. Les 27 sièges qui restent sont restés aux femmes, aux jeunes et à des handicapés physiques élus par des conseils, comités et des organisations spécifiques.
En Éthiopie, au moins 12 personnes ont été tuées dans un glissement de terrain dans le district d'Izara, dans le sud-ouest du pays. Ce glissement de terrain a été provoqué par de fortes pluies qui se sont abattues sur la région. Au Botswana, au moins 90 éléphants ont été retrouvés morts ces dernières semaines, selon l'ONG indépendante Éléphants sans frontières. L'information a été démentie par le gouvernement. La mission de l'ONU en Libye a annoncé la signature d'un accord de cessez-le-feu entre les groupes armés impliqués dans les combats près de la capitale libyenne, Tripoli, des combats qui ont fait au moins 50 morts depuis le 27 août. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, s'est dit prêt à retourner bientôt à Tripoli en proie à des combats meurtriers et a lancé une nouvelle charge sur le rôle de la France dans le chaos du pays. L'Italie doit rester protagoniste du processus de stabilisation en Méditerranée, a déclaré le patron de l'extrême droite et homme fort du gouvernement. Et puis en Algérie, le ministre de la Santé, Mokhtar Hasbellaoui, a annoncé que l'épidémie de choléra est désormais maîtrisée. Apparue le 7 août dernier, l'épidémie a tué 2 personnes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, ici aux États-Unis, coup d'envoi ce matin devant la commission juridique du Sénat du processus de confirmation du candidat de Donald Trump à la Cour suprême. S'il est confirmé, Brett Kavanaugh va remplacer le juge Anthony Kennedy qui a pris sa retraite. Morgan Gariek.
Brett Kavanaugh a promis d'être un juge impartial. Dans son introduction, il a déclaré qu'un bon juge doit être un arbitre neutre et impartial. « Je ne tranche pas sur les dossiers selon mes préférences personnelles ou politiques », ajoute le juge âgé de 53 ans, qui brigue un siège à vie à la Cour suprême. Le Sénat a le dernier mot sur les nominations à la Cour suprême, qui tranche aux États-Unis sur les grands sujets de société, comme l'avortement, les lois sur les armes, le mariage pour tous ou le système de santé. Les démocrates ont demandé sans succès un report de l'audience pour étudier les 42 000 pages sur Brett Kavanaugh que le Sénat a reçues hier. Malgré la vive opposition des démocrates, sa confirmation semble pratiquement assurée, les républicains étant majoritaires au Sénat. Le juge Anthony Kennedy, qui a pris sa retraite après 3 décennies à la Cour suprême, jouait un rôle de balancier entre 4 conservateurs et 4 progressistes. Brett Kavanaugh devrait ancrer fermement la Cour suprême du côté conservateur.
En Syrie, au moins 9 civils, dont 5 enfants, ont été tués dans des raids russes contre la province d'Idleb, dernier bastion des insurgés. Nous faisons le point avec Yacouba Ouedraogo.
D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les avions russes ont pris pour cible des secteurs contrôlés par les rebelles ou dominés par le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda. Ces raids interviennent au lendemain des frappes rebelles contre des positions des forces du régime dans la province de Latakia. Moscou accuse les rebelles d'être à l'origine de ces frappes qui ont touché une base militaire russe. Le régime de Bachar al-Assad massacre depuis plus d'un mois des renforts aux abords de la province d'Idleb et des poches sous contrôle rebelle ou djihadiste. Le président Trump a mis en garde hier la Syrie, la Russie et l'Iran contre une attaque contre la province d'Idleb. Dans un tweet, il a averti que des centaines de milliers de personnes pourraient être tuées. « Ne laissons pas cela se produire », a dit M. Trump. L'Iran avait exprimé son soutien à l'offensive syrienne, disant, je cite, « que la région devait être débarrassée des terroristes ». Selon l'ONU, une offensive contre Idleb pourrait faire jusqu'à 800 000 déplacés et provoquer une catastrophe humanitaire.
En Irak, près de 4 millions de personnes déplacées par la guerre avec le groupe djihadiste État islamique sont revenues dans leur foyer selon l'Organisation internationale pour les migrations. Début septembre, l'OIM recensait encore près de 2 millions de déplacés, soit le chiffre le plus bas depuis novembre 2014. Bagdad a proclamé fin 2017 la victoire sur le groupe État islamique chassé de tous les centres urbains d'Irak. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, a déclaré vouloir convoquer une réunion de haut niveau aux Nations Unies sur les massacres de la minorité musulmane Rohingya en Birmanie, estimant que les responsables devaient être traduits en justice. En 2017, plus de 700 000 musulmans Rohingya ont fui vers le Bangladesh après une offensive de l'armée birmane lancée en représailles d'attaques de postes frontières par des rebelles Rohingyas. En Afghanistan, les talibans ont annoncé la mort du fondateur du réseau Haqqani. Jalaluddin Haqqani avait fait ses armes contre les soviétiques, puis rejoint les talibans et fondé le groupe insurgé le plus redouté d'Afghanistan. Jalaluddin Haqqani était une figure clé du conflit qui ravage le pays depuis plus de 40 ans. Et puis pour finir avec un sourire, pour la première fois, une femme musulmane portant le voile participe à la finale du concours de beauté Miss Angleterre. Sarah Iftekhar est une étudiante en droit de 20 ans et elle est opposée ce soir à 49 autres jeunes femmes lors de la finale de la compétition. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Le produit intérieur brut de l'Afrique du Sud a reculé de 0,7% pour le second trimestre consécutif. Cette mauvaise performance place Pretoria techniquement en situation de récession pour la deuxième fois en deux ans. D'après l'Office sud-africain de la statistique, la baisse est liée au recul de l'activité dans les secteurs de l'agriculture, du transport, du commerce et des industries manufacturières et publiques. En revanche, les mines, les finances, l'immobilier et les services ont été les principaux contributeurs de richesse. Le Nigeria a exigé du géant des télécoms sud-africain MTN le paiement de 2 milliards de dollars d'arriérés d'impôts. Néanmoins, le groupe sud-africain pense avoir totalement payé les montants dus. Récemment, la Banque centrale lui a ordonné le rapatriement de plus de 8 milliards de dollars transférés illégalement hors du pays. Elle a épinglé dans la foulée les quatre banques qui ont effectué ces transferts entre 2007 et 2015 et devront payer une amende de 14 millions d'euros. Entre 2013 et 2017, les exportations d'armes de la Chine vers l'Afrique ont enregistré une croissance de 55%. Cet approvisionnement en armes est passé de 8,6% à 17%. Pékin acheminerait ses armes vers plusieurs zones de conflit du continent, notamment en Somalie, au Soudan et au Soudan du Sud. Djibouti représente une plaque tournante de son commerce grâce à ses installations portuaires.
Maintenant, la page sport, présentée ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Liste des lions indomptables, connue pour les éliminations de la CAN 2019.
Oui, pour sa première liste avec les lions indomptables, Clarence Seedorf a convoqué l'attaquant de Wolfsburg, Paul-Georges Ntep, qui a pourtant disputé deux rencontres amicales avec l'équipe de France, c'était en 2015. Hésitant à rejoindre la sélection camerounaise, l'ex-joueur de Rennes figure bien dans la liste définitive pour affronter les Comores en match de qualification pour la prochaine CAN qui débutera en juin prochain. Le joueur camerounais de 26 ans vient d'ailleurs de rejoindre la sélection actuellement en stage au Kenya.
Transfert pour un joueur sénégalais.
Oui, le FC Lorient a annoncé le recrutement de Sidi Sarr comme joueur joker. Le milieu international sénégalais de la Berrichonne de Châteauroux débarque dans le Morbihan sous la forme d'un prêt payant assorti d'une option d'achat. Sachez aussi que Moussa Marega a prolongé son contrat avec le FC Porto jusqu'en 2021. La saison dernière, l'attaquant avait joué un rôle majeur dans la belle saison de Porto puisqu'il avait inscrit 23 buts en 41 matchs, toutes compétitions confondues.
Du nouveau pour la sélection égyptienne.
Michel Salgado a été nommé sélectionneur adjoint des Pharaons officialisation par la Fédération égyptienne de football. L'ancien latéral droit du Real Madrid et international espagnol sera le bras droit du sélectionneur mexicain Javier Aguirre et il pourra apporter toute son expérience du haut niveau à Mohamed Salah et ses coéquipiers.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. Au Bénin, les députés de la majorité ont approuvé la loi modifiant le code électoral. Parmi d'autres mesures, il faudra débourser une caution de 250 millions de francs CFA contre 15 millions auparavant pour être candidat à une élection présidentielle. Cette loi fait du Bénin le pays africain où il faut payer le plus d'argent pour être candidat à la présidence. Pour décrypter le nouveau code électoral, Raïssa Girondin a joint Mathias Umpe, administrateur du programme de gouvernance politique à l'OSIWA, l'Open Society Initiative for West Africa.
Donc c'est environ de 30 000 dollars à 500 000 dollars. Pour les élections législatives, la caution est passée de 8 300 000 francs CFA pour une liste présentée aux législatives à 249 millions de francs CFA. Donc c'est environ de 15 000 dollars à environ 500 000 dollars pour présenter une liste aux élections législatives. Le deuxième élément, c'est l'introduction d'un seuil pour les élections législatives. Il n'y avait pas de seuil avant. Et il n'y a pas de seuil dans beaucoup de démocraties à travers le monde. Et la troisième disposition pour être candidat à toutes les élections, maintenant, il faut montrer qu'on est en règle vis-à-vis du fisc. Et donc c'est ça qui est comme un critère supplémentaire pour être candidat. Et pour finir, les alliances ne sont plus acceptées pour aller aux élections législatives. Il n'y a que les partis unitaires qui sont autorisés à présenter des listes pour les élections législatives.
Que l'opposition narque la plupart des mesures, elles ont été prises pour écarter de potentiels candidats. La majorité, elle, dit que c'est pour limiter le nombre de candidatures. Mais que faut-il en penser?
La quasi-totalité de ces mesures ont pour objectif de restreindre l'accès à la candidature. Et donc, de ce point de vue, c'est facile pour l'opposition de les présenter comme des mesures qui empêchent, n'est-ce pas, la candidature de l'opposition.
Et qu'en est-il des anciens présidents?
Alors, le bruit avait couru qu'ils s'apprêtaient à introduire une disposition pour retirer le statut d'ancien président ceux parmi eux qui voudraient se présenter à des élections nationales. Je crois que finalement, cette idée a été abandonnée et donc, pour le moment, les anciens présidents peuvent, s'ils le souhaitent, se présenter encore à des élections au Bénin.
Le vote de cette loi par le Parlement, est-ce qu'elle pourrait avoir une incidence sur l'ambiance même politique du pays?
Absolument. Lorsque vous initiez des lois pour restreindre l'accès aux postes électifs à des citoyens, il n'y a pas de doute que d'abord les acteurs de l'opposition seront mécontents et seront les premiers à s'exprimer, mais également tous les autres citoyens qui ont envie simplement d'aller s'essayer, n'est-ce pas, aux élections. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont déjà exprimés pour leur désir, n'est-ce pas, d'aller participer aux élections législatives, par exemple, qui auront lieu en mars, non l'année prochaine. Et donc, tous ceux-là, aujourd'hui, sont bloqués par cette disposition. Ça servira de source de remous politique d'ici jusqu'aux élections prochaines.
C'était Mathias Umpe, administrateur du programme de gouvernance politique à l'OSIWA. Il était joint à Dakar.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Tchad, la HAMA, la Haute Autorité des Médias et de l'Audiovisuel, a suspendu pour 3 mois le journal Al-Shahed, un journal bilingue. La suspension est due à une diffamation. C'est le deuxième média à être sanctionné par cet organe de régulation sous la 4e République. De N'Djamena, le reportage de notre correspondant André Komadjengar.
Né sur les cendres du Haut Conseil de la Communication sous la défunte Troisième République, la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel est l'une, sinon la première institution issue de la nouvelle constitution consacrant la Quatrième République à être dotée de plein pouvoir. Elle a vu ses attributions renforcées dans l'ordonnance 16, signée le 31 mai 2018 par le président intégral Idriss Déby Itno. Plusieurs médias privés ont déjà eu maille à partir avec cet organe de régulation. La dernière en date est celle de la suspension du journal bilingue Al-Shahed. Accusé d'avoir publié de fausses nouvelles dans sa parution du 1er août dernier, qui, selon la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, ne contient aucun fait ou élément matériel permettant de publier des propos accusateurs à l'encontre des pays qui entretiennent des relations de coopération et d'amitié avec le Tchad, l'hebdomadaire Al-Shahed est suspendu pour 3 mois. Pour les responsables du dit journal, cette décision est un règlement de compte. Jules Daniel Yunikilam en est le rédacteur en chef section française.
Au lieu de se contenter de son rôle de régulation des médias, la Hamas s'érige en un tribunal qui désormais a pour principale mission de régler les comptes des journaux d'une manière générale et précisément Al-Shahed qui critique les mauvaises pratiques converties en mode de gouvernance sous ces régimes. C'est malsain qu'un organe de régulation puisse se ridiculiser en prenant de telles décisions.
Pour le secrétaire permanent de l'ODEMET, Observatoire de la déontologie et de l'éthique des médias au Tchad, Gual Nanassoum, il y a 2 poids 2 mesures dans la prise de décision de cet organe de régulation.
On a l'impression que l'ARMA subit des pressions quelque part. Elle n'est pas vraiment indépendante comme son nom l'indique. Il y a des journaux qui mettent dans leur une des photos, à la limite en couleur même, des personnalités du régime qu'on accuse de grands voleurs de la République. Et ces gens-là, l'ARMA ne les appelle pas pour leur demander de leur donner leur source d'informations et aux petits hebdomadaires qui se battent pour informer le public qu'on demande ces informations.
En prenant de telles décisions contre les médias indépendants, la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel a une autre mission, estime Dr Evariste Ngarlam-Toldé, ancien président de l'Union des journalistes tchadiens.
En quelques semaines, 3 décisions inacceptables sont prises. Il faut simplement croire qu'on tend vers le musulman de la presse. Il ne suffit pas d'attaquer, de s'acharner sur un organe de presse simplement parce que telle information a été sensible et qui a été diffusée et qui porte atteinte aux relations diplomatiques entre le Tchad et les pays amis, entre guillemets. Cela n'est pas suffisant pour autant sanctionner un organe de presse. On risque d'arriver à la fermeture des journaux et des radios et ça serait vraiment un recul pour la démocratie au Tchad.
André Kodmadingar, Ndiamena pour VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
La Guinée, une autre terre choisie par la Chine sur le continent pour ses investissements. L'Empire du Milieu a signé plusieurs conventions avec les dirigeants guinéens et intervient dans divers domaines, notamment les mines. Mais la présence de la Chine en Guinée ne fait pas que des heureux. On fait le point avec notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara.
La Chine, l'une des nombreuses destinations du président guinéen. Alpha Condé y a obtenu plusieurs accords, des accords économiques mais aussi techniques. L'un des derniers actes officiels entre les deux pays est une assistance pour l'appui à la sécurité alimentaire, chiffrée à 6 millions de dollars et signée samedi en marge du forum sur la coopération Chine-Afrique. Dans le pays, le Made in China est sur presque toutes les lèvres. Mais qu'en disent les Guinéens? D'abord, les réponses de quelques vendeurs rencontrés à Madina, le grand marché de Conakry.
Ils font des commandes que nous autres ne pouvons pas faire. Et quand ils amènent leurs commandes, ils revendent à un prix plus bas que nous on peut revendre ici.
Le secteur minier guinéen est dynamique depuis quelques années et la Chine entend y prendre sa place. En janvier, la société chinoise Tebia obtient un accord d'investissement dans le domaine de la bauxite et de l'alumine. Il y a quelques mois seulement, la Guinée et Chalco, filiale du groupe Chinalco, ont signé une convention minière de 15 ans. Vraisemblablement, c'est la conséquence d'un accord cadre de prêt d'un montant de 20 millions de dollars signé l'année dernière entre la Chine et la Guinée. Selon plusieurs sources proches de ce dossier, la Guinée, qui obtient ce financement destiné à la réalisation d'infrastructures, va assurer aux entreprises chinoises des concessions minières au titre de contrepartie. Le chinois en Guinée, c'est aussi l'exploitation de bois dans le sud du pays. La coupe de bois dans cette partie de la Guinée est contestée. Les communautés ont même créé une association. Docteur Mamadi Onivogui est le chargé de communication de Touche pas à ma forêt.
Nous nous sommes rendus compte que dans le temps du général Ansana Conté, le contrat visait l'exploitation des forêts périurbaines. Mais maintenant, c'est tout dernièrement avec les manques de matières premières que subissait la société. La société aurait demandé au gouvernement guinéen de signer maintenant le protocole d'accord pour l'exploitation des deux forêts classées des Iamans et des Djeki. C'est ce qui a fait mal à toute la jeunesse guinéenne et plus particulièrement celle de la forêt. D'où la mise en place du collectif Touche pas ma forêt pour défendre les deux forêts.
D'autres parlent de menaces pour l'écosystème. Sur plus de 200 éléphants, il n'en reste qu'une vingtaine, alerte le porte-parole de Touche pas à ma forêt. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. Au Burkina Faso, une espèce de chenille comestible est revalorisée par les populations de l'ouest du pays durant la saison des pluies. La chenille de karité, ou chitoumou de son nom local, fait la fierté de la région des Hauts-Bassins. En fait, tout un festival lui est annuellement dédié. Reportage à Bobo Diolasso de notre correspondant Issa Napon.
Prédateur d'un arbre fruitier appelé karité en Afrique de l'Ouest, la chenille ou chitoumou, dans le dialecte local, fait l'objet d'une véritable fierté au sein des populations de la région des Hauts-Bassins. Pour revaloriser cette espèce de chenille comestible, une association s'active depuis une dizaine d'années dans cette région. Il s'agit d'une réelle nécessité de les mettre en avant, commente l'organisateur Lassina Sanou, président de l'association pour l'épanouissement de la commune de Bobo Dioulasso.
C'est le socle de la culture de la région des Hauts-Bassins, c'est l'identité de la région des Hauts-Bassins. Quand vous parlez de chitoumou, des chenilles de karité au Burkina Faso, immédiatement les gens font référence à Bobo Dioulasso. C'est notre identité culturelle. Donc ce qui veut dire que c'est un aliment qui est très important, qui représente toute la région de Haut-Bassin, d'où l'importance que nous lui accordons en organisant cette fête.
Le chitoumou, chenille de karité, est l'aliment le plus prisé dans cette région. Quand arrivent les premières pluies de la saison, la collecte peut ainsi s'engager, estime une des transformatrices présentes au festival. Pour Mamine, la quarantaine est bien entamée, le chitoumou est un concentré de vertus.
Les vertus du chitoumou sont nombreuses. On les consomme par exemple pour soigner les maladies liées à la tension artérielle, les ulcères, sous forme séchée ou pas, ou encore en poudre. Ils représentent aussi un complément alimentaire pour des enfants et nous les vendons dans des récipients entre 1250 et 1500 francs CFA, selon la quantité. Autant de vertus qui font rappeler la nécessité de consolider ce type d'action culturelle, bénéfique à tout point de vue, affirme le professeur Babou Niang, président de l'association des détenteurs des savoirs occultes africains.
Même les gens, ceux qui l'ont initié, ne savent pas exactement le bonheur qu'ils sont en train d'apporter à l'Afrique. Le chitoumou, sur le plan scientifique aujourd'hui, est reconnu sur le plan mondial que ça peut traiter beaucoup de maladies.
Un danger cependant guette ce véritable symbole alimentaire de la ville de Bobo Dioulasso. Les chenilles se font de plus en plus rares au fil des ans, constate avec anxiété Lassina Sanou.
L'enjeu est plus important pour la région de Haut-Bassin. Il va falloir que les gens prennent conscience du danger qui menace sérieusement les chenilles de karité. D'abord, sensibiliser la population à ne pas couper l'arbre de karité. Les chitoumous, c'est des chenilles qui ne sortent pas si des karités qui sont plantées par l'être humain. L'autre aspect, il va falloir sensibiliser les populations, surtout les paysans, à ne pas utiliser certains insecticides, certains pesticides qui nuisent carrément à la reproduction de la chenille de karité.
Plus de 100 tonnes de chitoumous sont collectées sur le karité par an, avec pour ambition, selon les festivaliers, d'en apporter une valeur ajoutée à terme en créant des unités industrielles de transformation spécifiquement dédiée au chitoumou. Issa Napon, Bobo Dioulasso, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débat. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Michel Joseph. À la console, Vasco Volaric. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, et notre page Facebook, bien sûr. Restez avec nous, tout de suite le RM Show avec notre Roger Mountou. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.